Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je suis toujours en compagnie de Lara, et donc vous allez écouter la deuxième partie de cet épisode sur le cadre. Nous sommes toujours chez Doctolib pour enregistrer cet épisode, donc merci à eux de permettre cet épisode et donc cette deuxième partie. Profitez bien de cette écoute, et à très bientôt. C'est comme la question aussi de l'argent qui est souvent questionnée aussi dans les thérapies, c'est-à-dire combien ça coûte le soin psychique, combien on donne, qu'est-ce qu'on laisse à la fin de la séance. Et du même ordre, je pense que c'est pas qu'une question d'un matériel neutre et objectif. C'est très chargé symboliquement, la question de l'argent. Et d'une personne à une autre, ça ne va pas vouloir du tout signifier la même chose de laisser ce chèque, ce billet, en fin de consultation.
Oui, je pense à une patiente qui m'a dit qu'elle m'appréciait. Enfin, c'était très joli la façon dont elle me considérait. Et elle, en rentrant très vite, elle avait déjà préparé son chèque, elle rentrait, elle le posait sur mon bureau, elle allait s'asseoir et dit « Bon, ça, on n'en parle plus, on fait comme si ça n'existait pas entre nous. » Et c'est quelque chose que je trouve très attendrissant. Enfin, j'ai été très touchée par ce geste de cette dame. Mais quelque part, ben, le recreuser pas à chaque fois, mais si je suis dans une fonction professionnelle et je peux être attachée à elle comme à la plupart de mes patients, mais je ne suis pas sa copine. Et ce paiement, ça rappelle aussi la relation thérapeutique. Ça rappelle que je suis à sa disposition pendant un temps. Et bien sûr qu'il peut y avoir de l'affect, il peut y avoir de l'estime, il peut y avoir... Enfin, quand tu parlais de cadre théorique, je me demandais quel cadre théorique je portais en permanence. Et très peu en tant que tel. Enfin, ce qui me parle le plus, c'est probablement les principes de Carl Rogers avec la notion de congruence. Donc je vais beaucoup travailler avec qui je suis en fonction de la personne et en fonction du moment. Mais ce paiement, c'est un moment qui renvoie à, je sais pas si directement ou indirectement, mais qui renvoie de toute évidence au cadre.
Exactement. Je trouve que ce qui se passe avec l'argent dans la rencontre avec les patients, pour moi, c'est toujours très très pertinent. Et que, en effet, c'est vraiment ce qui fait cadre aussi. Ce qui fait que, justement, on n'est pas dans une relation amicale ou un moment comme ça partagé, parce qu'on est relié quand même par ce matériel qui est l'argent. C'est-à-dire quand même qu'on est payé pour cette écoute. Donc, en même temps, moi, je le pense aussi en termes de dette. Parce que justement, par rapport à une relation avec d'autres personnes, on est toujours au fond dans une forme de dette, de quand on a pu passer beaucoup de temps à écouter quelqu'un, etc. En amitié, par exemple, on peut attendre aussi ce que l'autre soit présent à d'autres moments, etc. Enfin, il y a une forme aussi de mouvement comme ça, où l'un et l'autre sont présent, après absent, après c'est l'autre, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a un petit peu cette question-là, et que la question de la thérapie, c'est que justement, on s'affranchit de cette dette-là. Quand on a déposé quelque chose de nous, quand on a pu être beaucoup, beaucoup dans l'introspection, quand on a eu plein de mouvements face au thérapeute, etc., à la fin, il y a quelque chose qui vient être déposé autrement. Parce qu'en fait, on donne son billet, on donne son chèque, et on est affranchi de ça aussi. Parce que c'est aussi ce qui crée cette relation. C'est le fait que, en tant que professionnel, je peux entendre ce qui se passe, et il n'y a pas de risque à ce que je rejette ce patient, à ce qu'il me déçoive, à ce que je trouve absurde ce qu'il puisse me dire, ou que ça m'affecte, moi. C'est-à-dire qu'on... d'ailleurs, je le mets souvent au travail, l'idée de je peux être solide, je peux entendre, je peux comprendre, etc. Ce qui est totalement différent des autres relations. Mmh. Et l'argent, ça fait partie de ça aussi. C'est ce qui va permettre... je sais que c'est très compliqué, parce que le soin psychique aujourd'hui coûte cher. Enfin, ça, c'est une réalité. Bon, il y a des choses en ce moment qui se passent, qui, bon, on va pas parler ici, mais ça coûte cher. Mais même l'idée de « ça coûte cher », ça ne veut pas du tout dire la même chose pour une personne ou pour une autre. Moi, je suis toujours assez surprise que... En fonction des revenus de quelqu'un, la question de venir chaque semaine en séance payer, c'est quelque chose d'un réel investissement et qui est plutôt fluide. En tout cas, en l'occurrence, ça peut dire que ça peut pas l'être à un autre moment. Et pour d'autres qui peut-être, pour qui la somme d'argent représente pas une somme considérable, vont être dans la résistance quand même à mettre cet argent-là. Certains patients presque à chaque fois redemandent à chaque fois c'est combien déjà, comme si en fait ça avait pas été parlé ce tarif là presque pour, enfin je sais que j'avais un patient qui me disait mais vous avez pas augmenté. je me suis dit ah mais du coup peut-être qu'il a tellement donné à cette séance qu'il faudrait que ça lui coûte plus cher, enfin tout cas ce qu'il s'imagine, ou alors peut-être que c'est pas assez pour moi, peut-être qu'il pourrait se dire que est-ce que je vis suffisamment de ces séances là, ou est-ce que je suis aisée, est-ce que je suis en difficulté, etc. Et puis pour d'autres, c'est trop cher, c'est trop. Mais aussi, est-ce que c'est trop cher, mais ou est-ce que c'est trop aussi, ce travail-là, et tout ce que ça vient dire. Donc je trouve que l'argent, dans les rencontres avec les psychologues, c'est fondamental que ce soit pensé, travaillé, et qu'on l'ait en tête. Je suis... pour moi, assez perplexe quand ça ne vient jamais pendant une thérapie. Je me dis, c'est étonnant quand même que c'est pas du tout été pensé, ou en tout cas mis en lumière pour le moment, cette question de l'argent dans nos rencontres.
C'est... Oui, je crois que j'y avais pas autant réfléchi que toi. C'est... j'entends ce que tu veux dire par cette notion de dette et cette notion d'équilibrage. Et effectivement, complètement. Le fait de payer, c'est quelque chose qui, oui, qui équilibre ce que j'ai donné. Et quand tu parles du coût d'une thérapie, moi ce que j'entends, c'est aussi le coût pour le psychologue. Mmh. Parce que quand je suis avec mon patient, je suis disponible pour cette personne. Et donc, en fonction de la personne, de ce dont il a besoin, mais il y a des fois, je le porte, j'y crois pour deux, je pousse, je porte, c'est quelque chose que je fais avec plaisir, mais le soir, je suis fatiguée. et je pense que il y a des journées où je fais 8 consultations, étant plus jeune, j'en ai fait plus. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que, d'une part, à la fin de la journée, il y a des choses qui, quand même, se cassent un peu la figure au niveau de ma disponibilité ou de mon efficacité ou de ma réactivité. Et d'autre part, je pense qu'à un moment donné, c'est pas respectueux ni de la personne ni de moi. Et ce coût de la thérapie, parce que ça coûte cher. J'ai envie de dire, on donne beaucoup. je sais pas si c'est immodeste de dire ça comme ça, mais j'ai besoin de cette somme par rapport à ce que je dépose. Enfin, par rapport à ce que je fournis, ce que j'investis, ce que je... Et je pense que c'est juste. Et sur la question du coup, donc comme je disais en introduction, j'ai commencé ma carrière en bossant dans une asso, donc j'ai été rémunérée par l'asso, l'asso recevait des subventions départementales et nationales, et donc les consultations étaient gratuites pour les bénéficiaires, et il y avait beaucoup de lapins. Mmh. Enfin, je veux dire, on a tous et toutes des lapins, mais là, j'avais l'impression que une personne sur trois ne venait pas. Donc, à l'époque, on n'avait pas Doctolib, il n'y avait pas les rappels de SMS. Est-ce que ça compte? Je sais pas. Mais je pense pas que. Alors, j'avais pas réfléchi à cette notion de dette. Et est-ce que c'est ça qui faisait que, une fois qu'elle était venue, une fois elle et qu'elle m'avait rien donné, est-ce qu'elle se sentait entre guillemets honteuse de revenir ou de je ne sais pas. Je pense que dans le fait de payer, il y a aussi le fait de acter que cela a une valeur. Et que tant que je ne paye pas, bah, c'est gratuit, ça ne vaut rien. Si ça ne vaut rien, ça ne mérite presque pas de respect. Enfin, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, que ce qui me coûte, j'en prends soin. J'y porte attention. Ce qui ne me coûte pas, c'est cassé, je m'en fiche. Et du coup, je pense que la notion de coût existe et apporte à la thérapie.
C'est vrai que ça permet aussi l'investissement, l'engagement. Parce qu'en effet, quand on se dit que on met de l'argent, en tout cas, parfois, on est obligé d'un petit peu réorganiser notre quotidien en fonction, justement, de ce commencement d'une thérapie. On se dit qu'il faut y être, quand même.
Voilà. En tout cas, ça aide. J'irai pas jusqu'à dire c'est obligatoire, mais ça aide.
Oui.
Qu'il y ait des assos qui fonctionnent et qui permettent d'accueillir gratuitement certains usagers, c'est génial. Franchement, c'est nécessaire, je dis pas le contraire. Mais... L'investissement, ça peut aider. En parlant de coûts, quelque chose que j'ai découvert un petit peu en tâtonnant, mais sur la notion des rendez-vous loupés, c'est donner une participation autre que financière, notamment avec les ados ou avec des patients que je connais bien qui ont zappé une séance en toute bonne foi. Et qui m'appelle en disant désolé. Et donc je dis ben je vous remercie pour votre considération parce que il y a des personnes qui n'ont pas conscience que s'ils viennent pas je perds une heure de mon salaire. Enfin c'est comme si ils arrivaient au boulot et leur patron leur disait aujourd'hui je te paye 6 heures au lieu de 7. Enfin je pense que plusieurs personnes n'apprécieraient pas. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui se rendent pas compte que ça a un impact sur la façon dont je gagne ma vie, prosaïquement. Donc il y a des personnes qui se rendent compte et qui et j'apprécie leur considération indépendamment des circonstances qui ont fait que. Et du coup avec certaines personnes dernièrement, ce que je propose, c'est de me cuisiner quelque chose, de passer une petite heure à préparer quelque chose pour moi. Pour équilibrer le fait que j'ai perdu entre guillemets une petite heure où il était convenu qu'il vienne et la plupart du temps ça plaît beaucoup aux patients parce que c'est comme si ils peuvent s'affranchir d'une dette et y a une notion de fierté, d'honneur et de quelque chose de je suis content et je l'ai mis en place d'abord avec des ados pour. Parce qu'à un moment donné, je me dis, si c'est le parent qui paye parce que lui a zappé, à un moment donné, il y a quelque chose qui va peut-être pas... Et ça a bien marché pour réimpliquer l'ado. Et puis ensuite, je l'ai tenté avec certains adultes qui ont aussi apprécié l'expérience. Donc c'est une possibilité.
Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai que surtout par rapport aux ados... qui peuvent peut-être un petit peu plus jouer en plus avec l'idée qu'on les attende, ils viennent pas, ou la question de la rencontre quand même avec l'autre est beaucoup plus aussi proche ou loin, etc. Enfin, que c'est mis au travail, je trouve que oui, c'est plutôt une bonne idée. Mais non, je trouve que c'est un très très bon sujet, la question de l'argent. Et qu'en effet, c'est forcément aussi pour soi-même que ça fait partie de notre disponibilité aussi, et qu'on est payé forcément, en tout cas si on est exclusivement en libéral, c'est pas la même chose aussi que si on a 20% en libéral et 80% en institution, etc. Enfin, qu'il y a quand même plein de choses qui se jouent de ce côté-là, mais qui en effet peuvent être mis au travail. Ça fait partie en tout cas du cadre selon moi, et en tout cas c'est quelque chose que moi je peux être amenée à discuter en début de thérapie. C'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce que ça nous fait vivre en tant que psychologue, la question d'attendre un patient qui ne vient pas, la question de l'absence. Souvent aussi quand on reçoit des patients, des fois le tarif peut ne pas être le même en fonction du patient. Moi je sais qu'en tout cas je peux adapter aussi le prix de mes séances en fonction des revenus, d'un ou une étudiante, etc. Mais ça veut pas dire que ça peut pas être aussi mis au travail dans ce que j'appelle moi le contre-transfert, donc le fait de... c'est peut-être pas pareil ce que ça peut me faire vivre d'un patient pour qui j'ai baissé mes tarifs, qui vient pas... alors pour quelqu'un qui ne vient pas, qui a les tarifs plutôt de la fourchette haute, aussi si j'ai toute la journée que des patients pour qui je suis quand même beaucoup moins payée par rapport à d'autres, enfin voilà, d'être mis au travail aussi de ce côté-là, de c'est pas pareil un patient qui paye tel tarif, hein, celui d'après il paye deux fois moins, même si ça a pu être discuté comme d'un commun accord. Comme il y a des patients qui sont dans des périodes de vie où on peut, justement, je sais pas, ils perdent leur emploi, etc. Donc, l'idée qu'on discute ensemble que peut-être pendant quelques mois, la séance va coûter un petit peu moins cher, mais peut-être après comment on réaugmente, ou comment certains, justement, ont pu être rencontrés dans des situations plus précaires et qui aujourd'hui gagnent mieux leur vie, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant, et ça nous mobilise, nous aussi, en tant que psychologues. Et je pense que ça mobilise justement ce cadre aussi interne de tout le travail qu'on doit aussi faire sur nous-mêmes par rapport à ces rapports-là, avec l'argent, avec être à l'heure, être en retard, un patient qui vient, un patient qui ne vient pas, ce lieu, le bruit autour, etc. Et je trouve que ça vient dire aussi... tout le besoin, selon moi, que les psychologues ont, c'est-à-dire d'avoir des temps pour penser, pour analyser notre fonction, pour travailler sur nous-mêmes, pour s'observer, aller en formation, faire un travail, nous aussi, thérapeutique, pour que ça continue à créer cette bordure, cette structure de notre travail.
Oui. Moi, je pense que c'est super important d'avoir du temps. D'une manière ou d'une autre, que ce soit pour se faire papouiller, pour aller au spa, pour méditer tout simplement. Moi je suis devenue un petit peu addict au tricot. Enfin, le fait de me concentrer sur une tâche manuelle simplissime et répétitive.
Et en même temps tu tricotes.
Et à la fin, avoir un joli pull. Et donc, il y a le côté fier d'avoir quelque chose de physique, parce que je passe quand même mon temps à produire des choses qui ne se voient pas. Et donc, le fait d'être un petit peu plus dans le corps et dans la matière, ça m'apporte. Et puis, le fait d'être concentré sur... tu piques à gauche de la maille, tu enroules le fil par au-dessus, tu piques à gauche de la maille, tu enroules le fil par au-dessus, c'est aussi un moment où je vais pouvoir me remettre à la masse, me reposer, enfin c'est me recharger, et je pense que c'est ça et le sommeil. J'avoue que je me suis rendu compte que quand je travaille, j'ai besoin de plus dormir que quand je suis en vacances. C'est alors qu'en vacances j'ai plus de temps pour dormir. Mais j'ai moins besoin. Enfin, hormis les premiers jours où je rattrape un petit peu. Mais c'est... Oui, c'est quelque chose de... C'est, je pense que c'est très très important de prendre soin de soi. Enfin, avec tout ce qu'on donne, on est obligé de se recharger, sinon ça peut pas durer.
C'est notre disponibilité, en tout cas, psychique,
oui.
D'y être vraiment aussi.
Mais c'est... Oui, c'est une question d'équilibre, d'écosystème. Ce qui sort doit rentrer. Enfin, c'est... Sinon, la source va se tarir. Je pense que... Bon, en plus, je travaille sur la problématique de burn-out et du coup, de temps en temps, je réfléchis à « Mais Lara, est-ce que tu pourrais pas risquer de... » Donc, il y a cette notion qui, je pense, est présente. Mais oui, c'est fondamental de s'écouter et de se recharger en fonction de qui on est, comme on en a besoin. Est-ce que c'est par la musique, par le tricot, par le sport, par mais je pense que c'est essentiel.
Bien, grand merci Lara.
Eh ben, un grand merci.
C'était passionnant et vraiment, je sais pas si tu t'es sentie bien aussi dans l'idée de parler tout ça, parce qu'encore une fois, c'est pas un exercice si simple que ça.
C'était un grand plaisir.
Mais vraiment. Grand, grand merci, puisque c'était super. Donc, je te dis à bientôt.
Et j'espère.
Salut.
Salut.
Et voilà. Ces deux épisodes sont donc maintenant terminés. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours, soit via les avis qui sont possibles de mettre sur iTunes, mais aussi en m'envoyant un mail, tout est en barre de description. Vous pouvez aussi me contacter via Instagram et dites-moi si d'autres sujets similaires pourraient vous plaire, peut-être d'autres invités ou des approfondissements, peut-être sur par exemple la question de l'argent que je trouve très pertinente. Je remercie encore une fois Lara de s'être prêtée à ce jeu. Je remercie Doctolib de nous avoir accueillis et de permettre cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut !